Radio Campus 88.3. La guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses GIs au sud.
Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
Le cortège est protégé par 5 véhicules blindés et un hélicoptère.
Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue.
Cette mesure provoque une vague d'émeutes d'une ampleur exceptionnelle. 24 morts en 3 jours et des troubles. Échec d'un coup d'État, toujours des camps d'un au palais de la
sécurité. De plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
Cela a provoqué une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alfonsine, selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuites.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
Washington est en feu. Les Noirs descendent dans la rue, plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés. Bilan, 7 morts, 1200 blessés.
Bonsoir et à toutes et tous, bienvenue sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, à bâton rompu, Mag d'info tous les mardis de 19 à 20h, ce mardi avec Steven et Victor en studio. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Hassan, bonsoir à toutes et à tous.
Salut Hassan.
Steven, tu nous parles de... Non mais c'est pas maintenant ça. Steven, tu nous parles dans l'émission d'un livre et d'un film dans ta chronique ce soir.
C'est ça.
Et nous parlerons également de Bourges, capitale européenne de la culture 2028. Il y a 3 semaines, j'avais promis de vous le passer ça. C'est, vous savez, dans 3 ans, la capitale ibérique qui accueillera pour un an un événement culturel d'ampleur. Et il y a quelques semaines, l'équipe de Bourges 2028... en présentait quelques aspects à la région centre, à l'hôtel de région, on dit. Et le micro d'un bâton rompu y était. On écoutera ça dans l'émission. Et pour démarrer cette émission, alors on le fait complètement en direct. On n'a pas pu avoir Mourad avant. Est-ce qu'il est là, Mourad? Est-ce qu'il m'entend, Mourad?
Oui, bonjour. Vous m'entendez?
Ben oui, bon, on t'entend bien. Magie de la modernité, ils se foutaient de moi, les jeunes tout à l'heure parce que j'essayais de caler tout ça. Merci Mourad Guichard, un journaliste indépendant au téléphone pour débarrer cette émission. Vous le savez, Mourad, pour ta chronique du jour, nous allons parler de l'entretien que tu as eu avec Pascal Boniface, chanceux, va. Pascal Boniface, directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, IRIS. Tu as été invité par le géopolitologue sur sa chaîne YouTube, Comprendre le monde.
J'ai eu l'honneur d'être invité, notamment après des gens comme Alain Grèche, voilà, qui sont des gens reconnus pour leur connaissance et géopolitique. Donc voilà, j'étais vraiment très surpris.
Victor était jaloux, là, tu as eu l'honneur de bouffer le micro.
Évidemment, accepté.
On est tous jaloux dans le studio. Et alors, explique-nous comment les prémices, j'allais dire, l'interaction, elles s'est faites comment?
Par Twitter, tout simplement. Par Twitter, c'est-à-dire qu'en fait, par Twitter, par le média, c'est-à-dire que Pascal Boniface, donc est un téléspectateur, un internaute qui suit l'œil de Moumou sur le média. Mm. TV, et donc c'est pour ça, et comme il a vu, il a observé que évidemment j'avais plusieurs chroniques depuis le mois d'octobre, puisque j'ai commencé en octobre, j'avais plusieurs chroniques qui traitaient de la manière dont les médias traitaient ce qui se passait au Moyen-Orient. Il a donc été forcément intéressé par avoir un regard extérieur de quelqu'un qui fait de la critique média et qui essaye d'analyser ce que j'essaie de faire, d'analyser la manière dont les médias sont un peu partis en vrille, pour être très clair, depuis le 7 octobre sur cette question israélienne et gazaoui.
Et vous avez parlé tous les deux donc des médias en France, des médias qui refusent la critique qu'il aurait apportée. Écoutez,
si je vous suis, les médias ont du mal à accepter la critique des médias.
Oui, parce qu'il y a une espèce d'entre-soi, d'égocentrisme, de paroles vraies, de remise en question absolument impossible de la part des médias français. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont dit quelque chose, il y a une espèce de doxa qui fait que c'est difficile de revenir en arrière. Et l'un des exemples criants, récents, c'est Rutel Krief, par exemple, qui avait accusé ouvertement les organisations non gouvernementales, en l'occurrence Amnesty, Médecins du Monde et Médecins Sans Frontières, d'antisémitisme, ouvertement, en disant qu'ils s'occupaient plus des Gazaouis que des victimes du 7 octobre, et des victimes israéliennes en général, donc sous-entendu qu'elles étaient antisémites. On lui a prouvé le contraire, puisqu'il y avait concrètement des communiqués après le 7 octobre condamnant les attaques terroristes du Hamas. Et bien, elle est revenue en disant qu'effectivement, factuellement, c'est son terme, factuellement, elle avait dit une contre-vérité, mais qu'elle maintenait quand même qu'il y avait un problème vis-à-vis de l'antisémitisme de la part de ces organisations, ce qui est complètement faux. Mais voilà, même quand ils reconnaissent, il y a un mais à la fin de la phrase.
Donc, si je vous suis bien, les médias centraux, mainstream, qui n'arrêtent pas de critiquer les vérités alternatives, peuvent en même en véhiculer.
Oui, ils en véhiculent de manière quasi militante, puisque depuis le 7 octobre, alors pour moi, pour replacer les choses, le 7 octobre est beaucoup plus impactant et beaucoup plus clivant que le 11 septembre 2001. Oui. Dans les sociétés occidentales et dans les médias français en particulier.
Pourtant, après le 11 septembre, c'est une guerre mondiale qui est lancée. Là, c'est quand même plutôt réservé à Israël, Gaza. Mis à part les débats internes que l'on peut avoir là-dessus.
Oui, mais on peut observer que, par exemple, dans la société française, alors dans l'espace médiatique et l'espace politique, on peut même le qualifier d'espace médiatico-politique, puisque c'est une espèce d'entre-soi. Il y a des fractures, il y a des clivages qui n'ont jamais vu le jour. À l'époque en 2001.
Ça fait longtemps que sur le conflit israélo-palestinien, on en a parlé. Enfin, les gens, moi, j'écris un bouquin il y a maintenant 11 ans. La France malade du conflit israélo-palestinien, c'est quand même un conflit qui attise les rancœurs. Il y a des gens qui étaient amis, même dans les familles, qui ne se parlent plus à cause de là. Donc le 7 octobre a peut-être venu amplifier cela. Mais le fait que le conflit israélo-palestinien déchaîne les passions au point que les amis ne soient plus en état de se parler parce qu'ils diffèrent sur l'analyse de ce conflit, c'est pas nouveau.
À voir la totalité vraiment de cet entretien sur la chaîne YouTube de Pascal Boniface, Comprendre le monde. Donc Mourad, alors là c'était tu y vas carrément, toi, c'est les événements du 7 octobre beaucoup plus impactants que le 11 décembre, le 11 septembre.
Il a pas dit impactant, il a dit clivant.
Clivant que le 11 septembre 2001.
Oui, parce que il y avait à l'époque le président américain avait théorisé le bien contre le mal. Il y avait une espèce de camp qui allait de l'Espagne à aux États-Unis en passant par l'Angleterre, par le Royaume-Uni, qui était engagé. Alors que bravo de Villepin, de nouveau, d'avoir résisté à cette guerre, fausse guerre en Irak, dont on peut être fier, en 2003, je le rappelle, qui avait tenu tête à l'ONU. Mais non, on avait le camp du bien contre le camp du mal. Là, c'est autre chose. Depuis le 7 octobre, en fait, on a, pardon de parler de ma chronique, mais on le voit de plus en plus, à savoir que des gens comme Rutel Krief, comme Gilles Bornstein ou d'autres, plus Janat, sont dans une guerre larvée contre la France insoumise, contre la gauche, utilisent des mensonges, utilisent des manipulations. Rutel Krief, allez, je le dis très tranquillement, Rutel Krief est une menteuse. Elle a utilisé encore récemment des propos mensongers, absolument mensongers, contre Amal Bentounsi, en disant qu'elle a tenu des propos homophobes. Alors c'était pas le cas, et ça a été avéré. Donc il y a une guerre claire, nette et précise sur cette très courte, très courte campagne des législatives. Et donc c'est né de et je vous renvoie vers les propos de Jospin qui dit à Benjamin Duhamel, ça fait 5 fois que vous me dites que la gauche française est antisémite, que LFI est antisémite, avec un petit sourire satisfait, ça suffit quoi, c'est pas le sujet. Mmh. Et donc si vous voulez, même Jospin, qu'on peut pas qualifier de kamikaze communiste,
ah bon,
il recadre littéralement Benjamin Duhamel, parce que ce n'est plus possible, c'est vraiment un espèce de conglomérat, une espèce d'association de malfaiteurs qui vont ne faire pour campagne que d'accuser la gauche d'antisémitisme, ce qui est un extincteur du débat public, comme on en a déjà parlé ici, mais c'est pas possible. Et donc, oui, il y a une fracture aujourd'hui dans la société française, dans les médias, dans l'espace médiatico-politique, il y a une fracture, il y a des masques qui tombent entre les gens qui ont un peu d'honnêteté, je pense. Par exemple, donc je le redis à De Villepin, même à François Hollande, qui a mis un mouchoir sur ses dissensions pour rejoindre le nouveau Front populaire, et des gens comme Valls, comme Enthoven, comme Fourès, comme tous ces menteurs, ces tricheurs, qui sont prêts à voter RN à 19h59. Et donc, je pense que c'est révélateur. Voilà. Si on peut un terme photographique, c'est un bain de révélation, c'est un révélateur.
Avec Pascal Boniface, vous avez également abordé le sujet de l'inversion des valeurs, notamment chez certaines personnalités qu'on pensait à gauche. Écoutez.
Au point d'ailleurs, Mourad, où des gens qui se disent de gauche sont presque à souhaiter ou à accepter la victoire du Front National parce que le RN est pro-Israël et que ça l'emporte sur LFI qui est catalogué antisémite.
Bah, le plus récent exemple, c'est saisissant, voire sidérant, c'est évidemment le clan Klarsfeld, hein, qui a clairement dit qu'il voterait plutôt RN.
Donc les Klarsfeld, pour ceux qui éventuellement ne connaissent pas, mais bon, il y a une nouvelle génération, c'est un couple mythique de chasseurs de nazis qui ont un rôle essentiel contre l'impunité des nazis, mais qui se sont récemment ralliés au Rassemblement National.
Alors c'est tout à fait extraordinaire, c'est même stupéfiant, puisque effectivement ces chasseurs de nazis historiques se retrouvent aujourd'hui à défendre le RN. Alors je sais pas s'ils font semblant de ne pas savoir ou s'ils tombent dans le panneau que le RN évidemment le fait de manière commerçante, c'est-à-dire pour se dédiaboliser une fois de plus sur ce terrain-là, c'est par haine évidemment des Arabes et du monde arabe. Enfin c'est très troublant qu'on arrive à ça, et c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment le 7 octobre a été bien plus impactant, je trouve, sur la scène politique française et la scène médiatique française, que évidemment le 11 septembre, qui finalement a été traduit par le bien contre le mal, hein, la fameuse phrase du président américain de l'époque, à savoir que c'était une guerre juste, notamment en Irak, et heureusement des gens comme Villepin ont réussi à résister à ce moment-là. Mais là, on est dans quelque chose de plus profond et dont on ne mesure pas encore l'effet que ça va avoir sur le court et le moyen et le long terme.
Oui, Mourad.
Oui.
Tu es toujours avec nous.
Ah, bien sûr.
Voilà, donc un petit peu de... Allez, on va approfondir. Les Klarsfeld, c'est le papa, je crois, qui est le chasseur de nazis, oui, avec Beate, sa femme, qui dit tranquillement à la télé, je voterai pour le Rassemblement National contre le Front de Gauche, le Front Populaire. En quoi est-ce étonnant réellement ?
C'est une très bonne question, Hassan. C'est pas plus étonnant que ça. J'ai eu à en parler avec une responsable locale d'Orléans des questions liées aux déportations dans le département du Loiret. Ouais. Et en fait, en 2007, lorsqu'il a appelé à voter pour Nicolas Sarkozy, il y avait déjà une amorce, en fait. Une amorce de droitisation. Mais j'avoue que même moi, j'étais surpris par le fait qu'il puisse... Alors, je ne sais pas ce que je disais dans la chronique, dans le podcast de Pascal Boniface, oui. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il croit vraiment à ce qu'il dit, oui, ou si c'est stratégique. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Simplement, d'imaginer que des descendants très proches, hein, c'est pas si vieux que ça, des descendants de fondateurs d'un parti, le Front National, créé par des Waffen-SS, par des collabos et par des proches du régime nazi, j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'ils ne puissent pas être motivés par autre chose que par quelque chose de communautaire, de communautariste, voire de séparatiste, à savoir que ils souhaitent finalement que les juifs, enfin les Français de confession juive, se séparent de la communauté nationale. Et là, c'est très grave, parce que ça veut dire qu'il vient alimenter lui-même l'antisémitisme. Et ça, je trouve ça gravissime. Et je ne pense pas un quart de seconde que ce garçon, qui est un héros, et je le dis très tranquillement, qui est un héros de la lutte et de la chasse anti-nazie, puisse imaginer un quart de seconde que le RN, ex-FN, puisse sincèrement devenir d'un coup, comme ça, des bataillons, des chevaliers de la lutte contre l'antisémitisme, en sachant que ben, leur principale base, c'est d'être anti-arabe, anti-noir, anti-banlieue et anti-islam. Je ne comprends pas, franchement.
Et alors, dernière chose, Mourad, c'est tu nous appelles de Paris, enfin on t'appelle à Paris, tu viens d'enregistrer peut-être l'œil de Moumou de demain soir.
Absolument. Alors, ça peut donner un peu l'impression d'un jour sans fin, hein, le fameux film, où tous les jours le héros se lève à 6 heures du matin, oui, et que c'est pas toujours la même chose. Mais oui, je suis obligé de revenir sur la notion de plutôt Hitler que le Front Populaire, parce que les médias ont prouvé encore une fois de plus, de manière militante cette semaine, qu'ils étaient sur la base plutôt Hitler que le Front Populaire. Et d'ailleurs, ça m'intéresserait vraiment, puisque j'ai compris qu'il y avait Victor en studio, j'aimerais vraiment avoir son retour sur ça, sur cette dérive des médias.
Ça tombe bien, il voulait te parler.
Oui, alors déjà, petite dédicace à Mourad, parce que récemment, je regardais comme d'habitude l'émission Rhinocéros sur Blast, présentée par Usul et Lumi. Et elle citait directement Mourad Guichard, donc j'ai été un petit peu surpris, ça m'a fait plaisir. Et après, sur plutôt Hitler que le Front Populaire, en fait, moi je pense qu'il faut l'analyser en fait comme étant une question sociale. C'est-à-dire que les grandes fortunes de ce pays ont extrêmement peur du programme du nouveau Front Populaire. Les milliardaires, les fonds d'investissement, les banquiers, etc. et tout. Et les milieux d'affaires à ce niveau-là ont toujours soutenu. Comment dire, extrême droite compatible, j'ai envie de dire, plus qu'ils ne sont compatibles avec la gauche. Et du coup, c'est pour ça, à mon avis, qu'ils sont prêts à défendre un programme qui ne les affectera pas sur le plan social, parce que ce ne sont ni des étrangers, ni des... peut-être qu'après, il y en a des homosexuels, mais je ne sais pas si jamais c'est une question identitaire qui se pose à leur niveau. Et à l'inverse, la question économique, elle leur paraît centrale et ils sont là pour défendre leurs intérêts. Et c'est valable aussi, du coup, je pense, par relais pour les journalistes qui sont issus, du coup, de chaînes qui appartiennent à des milliardaires ou des trucs comme ça, qui, du coup, vont essayer de défendre leurs intérêts de la classe dirigeante et, du coup, forcément, vont essayer de... comme disait Mourad, plutôt Hitler que le Front Populaire, parce qu'au moins, avec Hitler, les affaires tournent, quoi.
Victor ?
Pour rejoindre ce que disait Victor, et c'est Raphaël, Michael Zemmour qui en parlait, que j'écoutais il y a pas longtemps, qui en parlait.
Et c'est pas le même, hein, c'est lui, c'est un économiste.
Michael Zemmour qui expliquait, l'économiste, qui expliquait que justement le problème avec, là actuellement, avec les législatives et les médias, c'est que on déplace le problème parce que on ne parle pas du programme économique en lui-même, on agite des pantins pour éviter justement d'en parler parce que il fait partie de ceux qui trouvent le programme du Front Populaire assez intéressant sur le plan économique qui pose des questions sur qu'est-ce qu'on priorise. C'est ça les questions qu'on devrait poser au Front Populaire plutôt que Mélenchon antisémite, ce genre de conneries, enfin voilà.
Mourad?
Oui, je suis absolument d'accord. Le truc, c'est que je parle régulièrement dans la chronique, mais on en parle ici, hein, de la fameuse fenêtre d'Overton,
oui,
médiatique, c'est-à-dire que maintenant on accepte des choses sur Public Sénat, sur France Info. Et notamment, je vous laisse aller voir ce que disait l'une des journalistes. Alors, j'ai oublié son nom, Alix Rouillaguet, je crois.
Gaillaguet.
Bouillaguet,
pardon. Alix Bouillaguet.
Merci beaucoup. Merci. Alix Bouillaguet, qui très clairement assénait façon PMU le fait que Mélenchon était un rempoussoir, un épouvantail, qu'il pouvait pas. Mais on s'en fout, qu'il pouvait pas être. Premier ministre, mais on s'en fout complètement. C'est pas la question. La question démocratique et la question politique, c'est de savoir quel programme politique sera mis en place le 8 juillet. Et ça, c'est de savoir si ce sera le RN ou le nouveau Front populaire. Et donc, qui que ce soit, et je le dis très tranquillement, qui que ce soit à Matignon, on s'en fout complètement. C'est simplement de savoir si il ou elle va. D'ailleurs, ce serait bien que ce soit elle, mais il ou elle va appliquer le programme du nouveau Front populaire. Point. Le reste, on s'en fout complètement. Que ce soit Mélenchon ou quelqu'un d'autre, c'est le respect des électeurs, donc l'anti-valse, le respect des électeurs et le respect du programme pour lequel ils seront peut-être élus. Mais le reste, on s'en fout complètement. Et donc, c'est là, il y a une espèce de doxa, de tsunami médiatique qui est très très gênant parce que il ne correspond absolument plus à au travail journalistique, c'est-à-dire que ça correspond à un travail militant, partisan, qui n'a plus rien à voir avec le décryptage que doivent offrir dans une période si courte de campagne les journalistes. Et je prends je reprends juste l'exemple de cette journaliste de France Info qui, par ailleurs, avait passé le plat à un député RN qui parlait, alors qui tenait des propos ouvertement racistes. Ouais. C'est-à-dire qu'il faisait la différence entre les Français, les Français de souche, on va les appeler comme ça, et puis pour prendre leur lexique.
Tu peux dire les souches, là hein.
Oui, mais voilà, je préfère pas le dire, mais enfin bon, c'est ça.
Bah, Victor le dit pour toi.
Non, mais je compte toujours sur Victor, Victor qui est originaire du nord de la patrie de Marine Le Pen pour préciser des choses. Simplement, là, très clairement, le député RN dit très clairement qu'il y a des Français de papier. Ils ne sont pas français de cœur, donc ils parlent de nous, hein, ils parlent d'Hassan, ils parlent de moi. Elle dit il faut faire avec. Ouais. Et ça, waouh, quoi. C'est pas possible. Absolument. Elle accompagne, non seulement elle acquiesce, mais elle accompagne les discours du RN. Et quand c'est la France insoumise en face, en l'occurrence, c'était Clémence Guettet, la députée sortante, là, elle la flingue en lui exigeant. En la sommant de dire que Mélenchon était un repoussoir. Et donc, c'est plus du travail journalistique, et c'est ce que je m'efforce de faire toutes les semaines, à la fois sur Radio Campus et sur le Média, à savoir d'expliquer que ce n'est pas un climat normal. Voilà, et que donc ça va peser forcément dans le résultat du premier tour de l'élection. Des élections législatives.
Et nous te remercions de cet excellent travail, ce travail nécessaire de critique des médias. Mourad Guichard, demain sur L'Œil de Moumou, le média, et sur la TNT et sur le site, hein, je crois, c'est les deux, la chaîne YouTube en tout cas, à 20h30, c'est ça, à partir de 20h30.
Absolument, et si je peux me permettre, oui. Juste il y a deux internautes qui sont sur Twitter, qui vont demain animer à partir de 21h. Oui. Donc c'est pour prolonger la discussion. Oui. Elles vont animer un débat sur l'influence des médias sur les législatives dans un space. Alors un space, c'est une espèce de table ronde virtuelle sur Twitter que vous pourrez retrouver à partir de 21h demain. On sera plusieurs, hein, il y aura l'UMI. Notamment, tu en parlais tout à l'heure, je crois, Victor, l'UMI de Blast. Oui. Il y aura Michel Soudet de Politis et moi-même. Et donc, on va essayer on va échanger avec les internautes pour expliquer, essayer de décrypter tout ça. Et donc, vous êtes évidemment pour poursuivre les débats qu'on a, notamment sur Radio Campus, Orléans et Tours. Vous êtes les bienvenus pour venir échanger avec nous demain à partir de 21h sur les réseaux sociaux. Vous pouvez cliquer en fait sur mon compte, hein, Moumou _ Guichard, ouais. Et vous verrez à partir de 21h que vous pouvez avoir accès à ce fameux space sur les médias et la politique.
Mourad Guichard, journaliste indépendant, à mardi prochain.
Avec grand plaisir, merci à vous et je suis à l'écoute, bien évidemment. Bonne émission à vous.
Sous les applaudissements. Chanson écrite par George Gershwin, magnifiée il y a quelques années par Ella Fitzgerald et Mahalia Jackson, et sublimée à l'instant par Angélique Kidjo, grande voix originaire du Bénin. Angélique Kidjo qui sera à Orléans très bientôt, mardi 15 octobre prochain, au théâtre d'Orléans. La location est ouverte. Angélique Kidjo, Summertime. Sous les applaudissements, messieurs dames.
À bâton rompu, sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, tous les mardis de 19h à 20h.
Monsieur Steven a lu et a vu un film.
C'est oui, ça oui, oui, c'est ça. Beaucoup de culture aujourd'hui.
Hein. Beaucoup de culture. Hein. Oui, mais il vaut mieux faire ça. Mais je te connais, va. Tu vas en profiter pour parler de politique.
Quoi
si, t'es camourade, toi. Dès que t'as l'occasion, tu parles de politique. Vas-y,
comment bon, alors, oui, bon, effectivement, on est dans le rush des élections législatives, avec des intentions de vote pour l'extrême droite qui sont dilatées comme jamais. Et oui, on dit bien extrême droite, hein, pour le RN, FN, appelé cette merde comme vous voulez, hein, mais c'est bien ça. Hein. Comme LFI, hein, qui est bien de gauche. Maintenant, si vous avez un problème avec ça, bah, allez voir le Conseil d'État, hein, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Remettre en question la légitimité des juges, et après, c'est eux qui vont dire que ce sont les étrangers qui respectent pas les valeurs de la République. Hein. Bon, moi, il me semble que c'est de la séparation des pouvoirs, ça en fait partie, mais bon. Ça reste quand même fou qu'on ait besoin de l'analyse des juges pour déterminer si des fachos sont des fachos, quand même.
En fait, ça nous conforte et c'est bien.
Bon, bref, je me disperse un peu. Les élections. En plus, il y a des choses à dire hein, sur Orléans avec les fonctionnaires racistes de Montargis et du tribunal de Montargis ou les insultes racistes contre le collectif Urgence Palestine de ce week-end. Les fachos.
Il y a eu des insultes
racistes. On a eu un communiqué de presse qui a été lancé par le collectif. Bon, on pourra en reparler.
Bien sûr, on en reparlera évidemment.
Et dans le Loiret, les fachos se lâchent en ce moment. Hein. Ouais. Mais voilà, il y a un temps pour tout. Hein. Et aujourd'hui, avant d'aller voter ce dimanche, je voulais vous proposer d'observer le monde. C'est beau, hein. Ça donne envie.
Absolument.
Allez, donc ouvrons cette fenêtre sur le monde avec les Antilles. Quoi ? Comment ça, les Antilles, on n'a pas quitté la France ?
La Guadeloupe est un département français des Outre-mer. Ce terme-là non plus n'est pas tellement de bienvenu. Il y a la Guadeloupe, il y a les îles. C'est une façon d'être et de vivre tellement différente. Hein. On est tellement loin. Mmh. Et puis on appartient aussi à un grand ensemble.
Ce grand ensemble, ce sont les Antilles, l'Amérique du Sud, ce sont tous ces peuples qui ont été esclavagisés. La personne que vous venez d'entendre, c'est Gisèle Pinault, donc, que j'ai rencontré le 13 juin à la librairie des temps modernes pour la présentation de son dernier livre, « La vie privée d'oubli ». Dans son nouveau livre, elle raconte l'histoire d'un passé inoubliable. Ce passé, c'est celui d'un traumatisme de masse qui se transmet de génération en génération. Ça a un nom, vous savez ? L'épigénétique, qui, appliquée à la mémoire, correspond à la transmission d'un trauma par les gènes. Ouais. L'épigénétique est un mécanisme réversible, donc dont on peut guérir. C'est de cela dont parle son livre, la place de la mémoire collective et de comment la puissance de cette mémoire peut prendre le pas sur la mémoire individuelle. Je voulais vous citer une phrase de Frantz Fanon qui disait qu'à certains moments, le noir est enfermé dans son corps.
Il disait ça absolument,
voilà.
Oui.
Donc, voilà. Et ce que Gisèle Pinault dit, c'est que le poids de cette mémoire qui nous habite, qui nous hante, ne repose pas seulement sur nos épaules de nous, peuples esclavagisés.
Aux peuples qui ont été opprimés, aux peuples qui ont été spoliés, aux peuples qui ont été colonisés, ça appartient au monde. Et ce n'est pas simplement ces descendants. Ces descendants de ces populations qui doivent faire face à cette question. C'est une question qui concerne aussi bien les descendants des colonisateurs, des prédateurs, des suprémacistes, hein, de tous ceux qui...
Tous ceux qui font partie de cette histoire, je complète.
Bien sûr. Et donc, on va continuer le voyage après les Antilles, l'Inde maintenant.
Ouais, direction l'Inde, exactement. Jeudi dernier, je me suis rendu à l'avant-première du film All We Imagine as Light.
Monsieur va voir les grands prix du Festival de Cannes.
Of course. Donc, un film réalisé par Payal Kapadia, un film donc, qui a été primé au Festival de Cannes. Hein. Le film a été produit par la société Petit Chaos, qui est basée à Orléans et financée par la région Centre-Val de Loire. D'où le fait que le film soit projeté en avant-première ici, etc., etc. Donc, le film, contexte un petit peu. L'histoire prend place dans la ville de Mumbai, en Inde, et je laisse Payal expliquer pourquoi ce choix.
C'est une ville, oui, pleine de contradictions, puisque d'une manière, c'est une ville dans laquelle elles peuvent vivre facilement, dans laquelle c'est peut-être un espace qui est peut-être plus, où il y a plus de sécurité pour les femmes qu'ailleurs en Inde. Mais de l'autre côté, donc, à la fois c'est un espace pour elles un peu d'indépendance et de liberté, mais de l'autre côté, il y a le côté économique, c'est une ville qui est... qui est très cher, où il y a beaucoup de gentrification aussi. Et du coup, pour être capable de vivre dans la ville, bah, c'est un peu comme un serpent qui se mord la queue. Et il faut toujours snake ou et donc il faut toujours plus d'argent pour pouvoir vivre dans la ville. Donc ces deux infirmières se retrouvent à devoir aussi ont une vie qui est très tournée vers le travail.
Bon, elle a une drôle de voix, la dame, vous trouvez pas? C'est normal parce qu'en fait elle parle anglais. Non, ce que je veux dire, c'est que comme elle parle anglais, la traduction a été réalisée par le producteur Thomas Hacking. Payal Kapadia revisite l'histoire de Mumbai et la confronte à ses contradictions. Ce film, c'est l'histoire d'amitié entre des femmes indiennes qui cherchent à s'émanciper, mais qui, d'une certaine manière, ont intériorisé le patriarcat. Ici, on y voit la place écrasante de la famille. Quand on regarde ce film, on retrouve, vous savez, cette sensation quand on monte sur Paris, l'impression de s'immerger dans une ville. Bah là, c'est pareil, mais à Mumbai, sans être un documentaire historique de la ville.
Et du coup, c'est un processus. Ça a aussi pris du temps parce que la langue principale du film, donc le Malayalam, qui est la langue du Kerala, que parlent donc ces personnages qui sont ici dans cette région, Payal ne la parle pas. Et du coup, ça demandait un effort supplémentaire pour en fait avoir le film dans cette langue et être sûr que tout était vraiment précis et du coup de travailler avec un scénariste et un assistant pour Payal qui l'a aidé pour cette partie en Malayalam. Et après, et tout le processus d'écriture a été vraiment nourri aussi, au-delà de la langue, par des recherches, par des interviews. Payal a rencontré des infirmières pour comprendre aussi leur réalité. Et tout ça nourrit le scénario. Donc voilà, tout ce processus a pris à peu près 3 ans.
Donc voilà, 3 ans. Et donc on a un film qui aborde aussi les enjeux et les conséquences de la gentrification, sur la vie de ses habitants.
Mumbai, c'est une ville qui est encore en construction. Il y a aussi des... Enfin, I had some details.
Construction, yes.
En fait, c'est sur l'océan, mais en fait, il y a de la terre qui est aussi reclaimed. Il rajoute en fait du sable. Donc en fait, c'est une ville qui grandit sans arrêt et aussi qui grandit avec des quartiers aujourd'hui qui sont totalement rasés pour construire des grands immeubles. Et donc tout ce truc de gentrification que Payal voulait raconter, puisque un des personnages le vivait, et puis c'était aussi un des propos du film de raconter la ville.
Donc voilà, All We Imagine as Light, c'est l'histoire des existences. J'en suis ressorti avec cette question: à quoi devons-nous conditionner l'existence des gens? Évidemment, moi, je n'ai pas la réponse et je ne vous donnerai pas des pistes de réflexion, je vous laisse réfléchir. Mais vous, auditeurs et auditrices, avec les élections, vous aurez peut-être la possibilité de donner des éléments de réponse à cette question. Doit-on nier l'existence et l'histoire des personnes au motif qu'elles n'ont pas les bons papiers, la bonne identité de genre ou la bonne couleur de peau? Je vous laisse y réfléchir et on verra ce qu'en pensent les Français dimanche prochain. Merci de m'avoir écouté.
All We Imagine as Light, grand prix du dernier festival de Cannes, en diffusion, donc tu l'as vu au cinéma Les Carmes à Orléans,
c'est ça, en
diffusion
première.
Au cinéma Les Carmes, et tout le monde en dit du bien.
Franchement, c'est un très bon film, allez le voir quand il sortira. Il sort le 2 octobre, si je ne dis pas de bêtises, et le livre de Gisèle Pineau aussi, La vie privée d'oubli, lui est déjà disponible dans les librairies. Allez le lire.
Gisèle Pineau était venue à la rencontre des amis de Michel Desbordes, tu m'as dit.
C'est ça, elle a été invitée.
Tu veux dire un mot de cette association?
Rapidement, parce que je ne les connais pas plus que ça. Mais... c'est eux qui ont organisé la rencontre.
J'ai quelques éléments. Moi, c'est une association qui a été créée en juillet 2016, 10 ans après la mort de Michel Desbordes, qui est une autrice, qui est décédée en 2006. Mm-hmm. Et ses amis ont décidé de créer donc, cette association pour le souvenir et l'amitié posthume de Michel Desbordes et de promouvoir son œuvre. Et je crois qu'elle est son œuvre est très tournée vers l'insularité, les Antilles et le pouvoir des femmes.
Oui, et la mémoire aussi. La mémoire, il y a un gros travail de mémoire. Elle a été travaillée dans la psychanalyse aussi.
Oui, bien sûr.
Donc c'est quelque chose qu'on ressent, et c'est pour ça que j'ai cité Fanon, parce que ça match.
Ouais. Tu l'as cité comme il fallait.
Voilà, exactement. Et donc voilà, donc à allez lire ce que fait Gisèle Pinault, hein, c'est super. Et je voulais aussi remercier Cyclic, hein, qui m'a invité pour cette avant-première du film All We Imagine as Light.
Cyclic, c'est l'agence du cinéma et le numérique,
voilà,
et tout ça.
Centre Val-de-Loire.
On en parle beaucoup sur cette antenne parce qu'ils font du bon boulot. Allez, on va passer un peu de musique avant de parler de Bourges, capitale européenne 2028, et on part du côté du Bosphore. Oui, non, c'est pas. Je voulais bien travailler. Le rock turc, j'adore.
Kafamda akşamdan kalmış fuşta çivi sökerdi çiviyi ama tek forvet kalmış zulamda ağla. Hayrola, aradım yokmuş Adem Baba. Bozdum yeminimi mecburen, yine bindim kestiğim dala. Abla, 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 her daim rötarda marka. Atma bari atma, yine tek ağacım kel sokakta. Abla, 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 her daim rötarda marka. Atma bari atma, yine tek ağacım kel sokakta.
Vient d'Istanbul, c'est un trio, il s'appelle La La La. La 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 La. Je vous jure, ils sont tous musiciens de rock, ils viennent d'un groupe que j'aimais beaucoup avant, Gaisu Akiol, qui a décidé de ne plus faire d'album, je crois. Et voilà, un des guitaristes a créé ce groupe-là, ça s'appelle La 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 La. C'est le premier album qui sort ces jours-ci, qui s'appelle Bichinete Bakar. Si je... Tu parles pas turc.
Non, non, pas encore.
Moi non plus.
Ça va venir, ça va venir.
Abattons rompu avec Hassan Kerim.
Le 13 décembre dernier, la ville de Bourges, dans le Cher, était désignée capitale européenne de la culture en 2028. Un label qu'elle partage avec les villes de České Budějovice en République tchèque et Skopje en Macédoine du Nord. Bourges est la cinquième ville française à obtenir ce label après Paris, Avignon, Lille et Marseille. Ce label est décerné pour une durée d'un an à une ville qui met en place une programmation culturelle à dimension européenne, à très forte dimension européenne d'ailleurs, destinée à promouvoir la diversité des cultures du continent. Mercredi 22 mai dernier, les premières lignes du programme culturel de Bourges 2028 ont été dévoilées à l'hôtel de région à Orléans par les élus et l'équipe qui a piloté la candidature de la ville. Nous avons demandé à Pascal Kayser, alors je vous demande un petit instant parce qu'il faut que je cale Pascal Kayser. Pascal Kayser est le commissaire général de Bourges 2028 et je lui ai demandé, pourquoi, comment une ville moyenne, le dossier d'une ville moyenne comme ça, comme Bourges, a pu l'emporter face à des villes métropoles comme Montpellier, parce qu'il y a Montpellier, Rouen et Clermont-Ferrand. Donc, voilà. Le projet était innovant, dit Pascal Kayser.
Sans doute que on proposait un projet alternatif, innovant. Je pense qu'on était moins dans la logique des capitales européennes de la culture précédentes en France, comme Lille, Marseille, qui étaient quand même des projets de très grosses métropoles. Et je pense que cet aspect relativement innovant et qui correspond aussi au momentum. Je pense qu'on est à un moment où le sujet des villes petites et moyennes en France et en Europe est important. C'est là où se jouent beaucoup d'enjeux de notre société du XXIe siècle. Et d'avoir positionné le projet spécialement en France sur ces enjeux-là a certainement été un élément distinctif par rapport aux trois métropoles qu'on avait en face de nous.
L'équipe qui a travaillé sur le projet a voulu un projet participatif et collaboratif. Le thème bas carbone est revenu très vite, a été d'évidence, dit Pascal Kayser. On l'écoute.
Ça se conçoit dès le départ, c'est-à-dire qu'il faut penser le projet avec le sujet du bas carbone sur la mobilité. Ça veut dire travailler sur des mobilités douces, train, vélo, bus, biométhane. C'est penser aussi comment intégrer des projets artistiques associés à la mobilité. Et ne pas se dire que finalement on fait un projet culturel et que la mobilité est gérée par des opérateurs de transport de manière relativement étanche. Donc c'est dès le départ penser différemment le projet en se disant que l'enjeu du carbone et du climat est un enjeu où finalement un grand événement culturel peut délivrer sans doute de la meilleure manière les bonnes pratiques et des propositions de bonnes pratiques. Très concrètement, dans une capitale européenne de la culture comme Bourges, qui va recevoir 2 à 3 millions de visiteurs, on regarde les statistiques des précédentes capitales européennes de la culture, on voit que 60 à 70% des visiteurs viennent du pays ou des pays limitrophes. Et donc, c'est proposer toute une stratégie de déplacement en train pour ces visiteurs, en train de jour ou en train de nuit, avec des valeurs ajoutées qui peuvent être des visites gratuites d'exposition, des visites guidées d'exposition pour les gens qui viennent en train, ou un certain nombre de projets artistiques proposés lors des déplacements. Par exemple, toute une série de contenus exclusifs téléchargeables pour les gens qui vont voyager en train. Ça peut être des téléséries, ça peut être des documentaires, ça peut être des projets artistiques, ça peut être des chansons qui seront téléchargeables pour les gens qui pourront attester d'un billet de train. Voilà. Donc c'est cette stratégie d'amener de la valeur ajoutée pour les gens qui voyagent en bas carbone.
Il existe un site bourges2028enattaché.org pour voir la façon dont tout ceci s'est mis en place. L'équipe voulait aussi plus intégrer la jeunesse, les jeunesses, dit Louise Tournillon, qui est coordinatrice générale de Bourges 2028.
Ce qu'on a fait quand on a constitué le dossier, c'est on s'est intéressé aux multiples défis de la jeunesse. Et d'ailleurs, on ne parle pas de jeunesse parce que c'est un groupe qui est finalement très hétérogène. On parle de jeunes. Et donc, on en a identifié plusieurs, et notamment en termes de gouvernance. Et moi, je peux parler d'ailleurs au titre de ma génération. On est une génération qui aujourd'hui veut agir, veut participer et ne veut plus avoir des informations descendantes de la part de ce que je disais. Et c'est peut-être un peu provocateur, mais en tout cas, c'est un ressenti qui est réel de la part d'une génération qui aujourd'hui on tire responsable des crises actuelles et notamment climatiques. Donc il y a ce besoin d'agir, il y a ce besoin d'être écouté. Donc il y a des vrais sujets autour de la gouvernance et des jeunes, notamment dans un projet de capitale européenne de la culture. On a identifié aussi des sujets autour de la mobilité et notamment dans les territoires ruraux. En ce moment, il va y avoir bientôt les assises nationales des jeunes en territoires ruraux et la mobilité, c'est le sujet top 1 des jeunes en territoires ruraux. Comment accéder à l'offre culturelle. Quand on parle d'accéder à l'offre culturelle, il y a aussi la question des coûts. Nous, on se base surtout sur des chiffres du ministère de la Santé, mais aujourd'hui, il y a 1,3 million de jeunes en dessous de 24 ans qui sont en situation de grande précarité financière, alimentaire et sanitaire. Et donc, toutes ces barrières plurielles, on les a identifiées, on a essayé d'y répondre dans la programmation artistique de Bourges 2028. Donc, par exemple, si on parle de coûts et de précarité, nous, on va travailler pour les scolaires avec le Pass Culture, avec la plateforme IEPS aussi pour à l'échelle régionale. Et puis, on a d'ores et déjà acté que toute la programmation artistique de Bourges 2028 serait gratuite pour les moins de 20 ans. Si je parle de la mobilité, comme vous l'avez vu ce soir, on a aussi à Bourges 2028 un très grand projet de mobilité culturelle en lien avec l'Europe, mais aussi en lien avec les zones rurales. On a inventé un processus de RER Europa, ce bus bas carbone qui part d'une ville et qui va dans la ruralité pendant un après-midi. Tout ça, c'est des projets qu'on imagine comme des solutions pour les villes moyennes, pour les connecter à la ruralité. Et c'est aussi des projets qui s'adressent aux jeunes. Et en plus, on a un terreau favorable ici parce que la région Centre-Val de Loire a mis en place la gratuité des transports pour les moins de 25 ans les week-ends et les jours fériés. Donc ça, c'est assez chouette. On va s'appuyer sur ce genre d'engagement politique. Et enfin, la gouvernance, qui est le sujet extrêmement complexe à traiter, parce qu'il y a aussi une certaine radicalité dans ma génération à laquelle il faut répondre. Et donc, on s'est dit, puisque les jeunes ont autant envie de participer et d'agir, oui, carte blanche. Donc, on va constituer un comité Bourges 2028 au sein du Conseil régional de la jeunesse, qui sera en charge de toute la programmation jeunesse de Bourges 2028. Et on leur a dédié un budget, 5 millions d'euros, et on va décider avec eux de ce qu'ils en font. Mais au moins, on leur donne... Parce qu'il ne s'agit pas simplement de créer une instance où ils peuvent être écoutés et entendus. C'est donnons-leur les moyens d'agir. Donc là, vous avez un budget. Qu'est-ce que vous avez envie de voir émerger en 2028?
Les appels à projets, ça va venir très vite. Est-ce que tout le monde peut candidater?
Absolument. Tous les porteurs de projets peuvent candidater aux appels à projets pour 2028. Et pas seulement les porteurs de projets culturels. Ça peut être des porteurs de projets individuels, des porteurs de projets écologiques, des porteurs de projets économiques, sociaux. Sur ça, pour le coup, on souhaite que les 200 projets qu'on va accompagner grâce aux 5 millions aux 5 millions d'euros des appels à projets, on souhaite que vraiment tout le monde s'en saisisse et puisse proposer l'idée qui change.
Ça y est, c'est lancé.
À bâton rompu, l'état du monde.
C'est ici. Oui, alors, pour les 20 ans, c'est mort.
C'est pas possible.
Par contre, pour les appels à projets, j'espère que vous avez entendu un ami auditeur et auditrice, mais il y a plein de gens devant le match de foot, donc dites-leur qu'il y a le podcast, et voilà, pour Bourges 2028.
Comment ? Voilà, c'est ça.
Pour Bourges 2028, et pour les appels à projets, vous avez entendu Louis Tournillon, c'est... Tout le monde peut postuler. Il y a quand même 5 millions d'euros. Quoi.
C'est une jolie somme. Hein.
C'est carrément une jolie somme. Les appels à projets vont venir très vite. Je vous disais Bourges 2028 en attaché pour regarder comment ça se passe pour si vous avez des projets non seulement culturels mais d'autres trucs artistiques et ça pourrait les intéresser. En tout cas, on fera d'autres émissions. C'est prévu. Plusieurs émissions avant 2028 ici sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. Je leur ai demandé ça pour parler de ce très très beau projet qui nous arrive en région centre Val de Loire. Dernier sujet, oui, j'avais calé le jingle pour. Je vais vous le remettre, le jingle.
À bâton rompu, l'état du monde.
L'état du monde. Alors, si je vous dis Julian Assange, les jeunes, parce que je croyais qu'on
Julian Assange, oui, c'est la personne qui avait révélé que les États-Unis, les services secrets américains avaient accès à toutes les boîtes mail de tous leurs citoyens et qu'ils épluchaient les mails à la recherche de potentiels terroristes. Enfin, c'est...
Il y avait ça, mais il y avait également par Wikileaks qu'il avait créé. C'est un journaliste. Oui. C'est un journaliste.
Je confonds dans ce cas. Non, ouais. C'était pas Julian Assange, c'était Edward Snowden.
Je vous en parlerai à la fin, Snowden. Donc, Julian Assange. En prison depuis 5 ans, ça fait au moins 13 ans que ça dure cette histoire, où il a publié des photos, des images par Wikileaks, notamment de certaines attaques ciblées par les États-Unis lors de la guerre d'Irak. Et depuis, il était poursuivi, il était en prison longtemps, caché à l'ambassade d'Équateur à Londres, mais finalement en prison. Et bien, il était libéré cette nuit, c'est l'info que j'ai appris ce matin. Oui. Il avait des avocats un peu partout, Julian Assange, mais ça dure quand même 5 ans. Antoine Veil est un très bon avocat français qui s'occupait de ses intérêts en France. Ce matin, il était sur Radio France Internationale et on lui a demandé « Est-ce que vous étiez au courant que ça allait se passer très vite ?» Mais en fait, non, parce que tout le monde était surpris. Ça s'est passé entre Julian Assange, ses avocats anglais et les États-Unis. Écoutez la réponse d'Antoine Veil.
En fait, il y a toujours eu des tendances au sein du gouvernement américain et c'est bien légitime. Je rappelle que Assange est soutenu par des millions de personnes. Il n'y a pas un groupuscule de soutien d'Assange. C'est une grande et large partie de l'opinion. Il a des soutiens dans les ONG, il a des soutiens parmi les avocats, les juristes. L'ONU avait reconnu le caractère arbitraire de sa détention. Beaucoup de pays, l'Allemagne notamment, beaucoup de pays l'avaient soutenu. Donc forcément, au sein sein de l'appareil américain, il n'y avait pas une voix monobloc. Aujourd'hui, on se réjouit que finalement les États-Unis aient accepté d'entrevoir quelle était la réalité, ou du moins une partie de la réalité de la solution. Et voilà, c'est ça qui fait que ça progresse. Et une fois encore, on va avoir tout le temps d'analyser et de commenter cette décision. Aujourd'hui, on réagit simplement à une bonne nouvelle, qui est que on va pouvoir enfin lui parler ailleurs que derrière des barreaux.
Et on entend votre sourire ce matin. Maître Antoine V, on va rappeler aux auditeurs, même si le nom de Julian Assange est devenu mondialement connu, pourquoi il était et encore poursuivi. Exposition au grand jour de plus de 700 000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan, c'est bien ça ?
Oui, alors si vous me permettez, je veux dire, il est poursuivi parce que il est un journaliste. C'est une personne qui a créé un outil technologique qui s'appelait WikiLeaks et qui permettait effectivement à des sources de bénéficier d'une protection tout à fait nouvelle et innovante à l'époque. Ces sources-là, après un contrôle éditorial, comme dans tous les journaux, pouvaient publier des informations et certaines, et c'était ça l'apanage de WikiLeaks, certaines étaient des informations extrêmement confidentielles, extrêmement bouleversante pour des dirigeants ou des États. Ça lui a valu lire des renseignements américains pendant des années où il a été persécuté, lui et sa famille. Et c'est pour ça qu'on a toujours protégé derrière Assange une cause qui est bien plus importante finalement, c'est la liberté d'informer, le droit d'informer. C'est très difficile et très important comme cas, notamment dans une société qui bascule vers l'information en ligne et l'information numérique. Donc ça posait et ça posera encore pendant des années une vraie question qui est celle de la capacité des citoyens à accéder à une information vraie, transparente, complète et qui n'est pas manipulée ou manipulable par ceux qui finalement la diffusent.
En tout cas, c'est une très très bonne nouvelle en ce moment. Julian Assange est parti d'Angleterre, il est dans une île du Pacifique qui appartient aux États-Unis. Je crois qu'il doit rencontrer des autorités américaines demain. Mais finalement, il sera libéré très vite et retournera chez lui. Il est australien d'origine.
Il faut qu'un juge valide l'accord qui a été conclu.
Absolument. Mais vraiment, c'est une victoire de la liberté d'informer. C'est pour ça que j'en parlais. J'ai une pensée pour tous les gens de Reporters sans frontières qui on a fait des manifestations à Paris ensemble et tout ça sur Julian Assange. En tout cas, très content de cette libération. Merci à vous, messieurs, d'avoir suivi.
Merci à toi, Hassan.
C'est toujours un plaisir.
Vous avez une idée de ce que vous voulez faire la semaine prochaine ?
Moi, je vais me détendre les pieds en Italie.
Je voulais que tu l'annonces, c'est pour ça. Et tu pars en Italie, donc.
Oui, c'est ça, dans la région de Parme.
Mais fais gaffe, il y a plein de fachos.
Oui, c'est ce que... On en blaguait avec une collègue de Radio Campus là, un peu plus tôt, on se disait, enfin elle me disait ah, bah, tu vas en vacances chez les fachos, je fais ouais mais attends, le pire c'est quand je vais revenir.
Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. En tout cas,
tu sais comment tu quittes la France, tu sais pas comment tu vas la retrouver.
Bonnes vacances à toi. On attend ici à Orléans dans les studios Raidon. Ils vont arriver, ils m'ont prévenu, ils vont arriver avec un peu de retard. À Tours, dans 3 minutes, vous reprenez possession de vos moyens. Et à 21h, c'est du jazz. On va se quitter avec du reggae, du dub même, comme on aime bien. Ah oui. Bah ouais. Ça s'appelle Vital Dub. C'est Well Charged. Passez une belle soirée, une bonne semaine. À bâton rompu, reviens mardi prochain à 19h. Soyez là, s'il vous plaît.